Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. On peut dire que l'impossible n'est parfois pas certain, mais il peut être évident. Par la force d'aimer, on est capable d'accomplir des merveilles, de franchir des montagnes, bref, de vouloir se battre coûte que coûte pour l'homme ou la femme que nous aimons. Dans ce monde si troublé, si perturbé, rien de tel que d'avoir auprès de soi quelqu'un que l'on aime et qui vous aime, en tout cas qui vous donne et qui vous pousse et qui vous donne des ailes. Pour le livre dont nous allons parler aujourd'hui, pour mon invité, c'est une belle leçon d'amour, de vie, d'espérance, d'espoir, d'acharnement aussi et de volonté. Pour nous parler de ce livre, eh bien, je dirais, moi, une femme d'exception qui s'est battue pour elle, pour l'homme qu'elle aimait, et puis tout simplement pour la vie et pour le droit au bonheur. Bonjour Jamila Vaujourin.
Bonjour Claudine.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour La force d'aimer aux éditions IXO. Alors, on va parler bien sûr de vous, de Michel Vaujour qui est votre mari, des circonstances de votre rencontre. Mais moi j'ai envie de commencer avec un petit personnage qui a compté beaucoup dans votre enfance. C'est le petit poisson Whiz.
Tout à fait.
J'ai trouvé ça.
Il a beaucoup compté parce que ça a été mon premier confident.
Oui.
Dans une grande fratrie de 8 frères et sœurs où j'étais l'avant-dernière et où j'avais le sentiment de ne pas vraiment avoir une place à moi, si ce n'est auprès de maman quand je pouvais lui parler qu'elle était seule. Et donc c'était un petit personnage, mais un grand personnage pour moi parce qu'effectivement il me jugeait pas, il me répondait pas, mais il était là et du coup ça m'aidait à déposer un petit peu tout ce que j'avais et dans la tête et dans le cœur et voilà, et c'était des grands moments entre lui et moi, des moments silencieux pour lui mais pour moi beaucoup de chuchotements et le début d'une grande aventure.
Oui. Alors vous,
l'écriture a pris le relais plus tard.
Oui, tout à fait. Et puis d'une famille, vous aviez l'impression que aussi on vous préparait un mariage, on vous proposait des mariages ou des unions avec des hommes que vous connaissiez peu ou pas, avec les tantes, les cousins, les cousines, les parents qui faisaient un petit peu le forcing. Vous aviez un petit peu l'impression que l'on voulait vous caser, il fallait vous marier.
Absolument, tout à fait. C'était pas qu'une impression, c'était conforme à ma culture d'origine, et donc voilà, mes parents effectivement attendaient que je fasse un mariage plus ou moins arrangé, c'est-à-dire que si ça se faisait pas naturellement, évidemment, on me poussait doucement sur ces rails-là, en tout cas, absolument, tout à fait.
Alors vous quittez très peu le cercle familial, hein, donc il y a ce petit poisson qui devient qui est votre confident, mais peu à peu vous allez vous créer un monde à vous, vous retrancher dans ce monde que vous allez vous créer, jusqu'au jour où vous découvrez un peu plus tard une émission animée par Patrick Poivre d'Arvor, ex-libris, où il est question de Michel Vaujour.
Tout à fait, oui, tout à fait, et dans cette émission, alors au-delà effectivement du côté sensationnel du personnage qui était présenté comme à l'époque le roi de l'évasion, l'ennemi public numéro 1.
Oui, il faut rappeler qu'il s'est évadé en hélicoptère.
Tout à fait, de la prison de la Santé en 86.
Tout à fait.
C'était pas du tout ce qui avait à l'époque résonné en moi, et pas plus aujourd'hui d'ailleurs. Mm-hmm. C'était vraiment la manière dont il vivait sa détention et son acharnement à retrouver sa liberté par tous les moyens. Et c'est vraiment ça qui m'a parlé.
Oui.
Et qui a fait écho à ma propre captivité à l'époque. Alors toute proportion gardée, mais j'avais vraiment l'envie de le connaître et de voir jusqu'où on pouvait aller effectivement pour retrouver sa liberté.
Oui.
Ça a été le début de notre histoire effectivement.
Oui. Moi, en lisant ce moment du livre, c'est comme si j'entendais un cri de votre part, une forme de libération en écoutant cet homme, au-delà de la façon dont il vivait la prison, la façon dont il envisageait la liberté de par l'évasion. C'était une forme de reconnaissance en disant, tiens, cet homme-là, il cherche la liberté, l'évasion. Est-ce que moi, je vais pouvoir expliquer ou comprendre certaines choses au travers de sa propre existence? C'était un petit peu ça le cheminement à ce moment-là?
Tout à fait. Et quand vous dites cri, c'était tout à fait ça. Ça a d'abord été un cri silencieux et ensuite une vraie libération. Mm-hmm. J'avais vraiment trouvé un frère dans les choses que nous vivions.
Oui.
Et surtout, Michel me comprenait ce que je disais. Et malgré ma jeunesse, malgré probablement mon inexpérience et une forme d'immaturité, on s'est entendu, on s'est reconnu et il m'a donné toutes les forces en fait. Il a mis probablement un mot et une conviction sur ce que je vivais alors.
Oui.
Parce qu'effectivement, peut-être parfois j'avais la tentation de me dire bah finalement c'est la vie, c'est comme ça, c'est normal de se marier et d'avoir une famille et finalement d'être en conformité avec ses origines et sa culture. Et avec Michel, j'ai commencé à me dire bah non, c'est pas normal, c'est ma vie et finalement j'en ai qu'une et
personne ne décidera pour moi et personne ne décidera pour moi en fait.
Tout à fait.
Et Michel Vaujour en s'évadant en 1986, c'était ça aussi un petit peu. Personne ne décidera sur moi, je m'évade parce que voilà, c'est moi qui décide pour moi. Personne ne décidera pour moi.
Bien sûr.
Alors, vous décidez de lui écrire en ne pensant pas un seul instant qu'il répondra. Et c'est toujours ce cri, toujours ce cri silencieux, mais un cri silencieux manuscrit, ce coup-là.
Oui, tout à fait. Oui, quelques lignes finalement, et en me disant, il n'aura rien à faire d'une jeune femme finalement qui vient lui tendre un peu la main. Et puis je me suis un petit peu cachée derrière à l'époque mes projets professionnels en lui disant j'envisage d'être magistrate et j'aimerais beaucoup connaître les conditions
de détention,
de votre incarcération et les implications psychologiques induites par l'isolement. En fait, c'était ça ma démarche. Et je me disais ça va pas l'intéresser parce qu'il le vit, il a peut-être pas en plus envie d'en parler. Et puis il m'a répondu contre toute attente.
Alors magistrate parce que dans votre esprit c'était une façon de sauver les autres, de sauver une forme de liberté, d'aider les gens dans une démarche quelle qu'elle soit, mais pour la vie toujours.
Oui, tout à fait. J'avais eu une expérience avec un de mes frères qui avait été incarcéré et j'avais dû effectivement aller le voir en étant très jeune moi-même. J'avais 14 ans et demi. Et c'est une expérience qui m'avait vraiment décimée. Je crois que c'est le terme que j'emploie dans le livre et c'est vrai.
Oui.
Et je m'étais vraiment sentie complètement noyée dans cette expérience. Et pour moi, être magistrate, c'était ça. C'était symboliquement me venger et puis me donner les moyens et de comprendre et de juger peut-être avec humanité. Oui.
Oui. Alors il vous répond et vous vous rencontrez.
Oui.
Et là, ça a été ce cri d'abord silencieux, puis manuscrit, c'est devenu un cri intellectuel, psychologique, un choc de part et d'autre d'ailleurs, parce que on a l'impression qu'il trouve en vous quelque chose d'exceptionnel, quelqu'un d'exceptionnel. Il est étonné par votre force, par votre détermination. Et vous rencontrez un homme posé, calme, déterminé, avec un charme aussi, un charme fou aussi quelque part. Il y a une électricité, mais ça transpire tellement que moi, en lisant ça, j'en avais la chair de poule parce que c'est tellement décrit formidablement. J'imaginais cette rencontre. Dites-nous, racontez-nous.
Alors d'abord, c'est une rencontre qui n'aurait pas dû exister, puisque effectivement, je suis rentrée en falsifiant une autorisation.
Oui.
Et donc, lui ne m'attend pas. Et donc, effectivement, je pense que ça a été, vous disiez intellectuel, je pense que ça a été vraiment une rencontre instinctive. C'est-à-dire moi, j'arrive presque sans vraiment calculer la difficulté. Mm-hmm. Et je ne m'attends pas à le voir. Je ne sais pas si ça va marcher. J'y vais un peu par jeu, un peu par défi, et puis je me retrouve en face de lui et je n'avais rien préparé finalement.
Oui.
Et on se retrouve dans la vérité et l'un et l'autre, c'est-à-dire que même sans avoir rien préparé, on est là dans une ambiance tout à fait naturelle, tout à fait
comme une évidence.
Et voilà, il y a des silences, il y a des questions de sa part parce qu'il comprend pas comment je suis arrivée là. Et puis finalement, moi je mesure mon geste, je me dis mince, c'est quand même énorme ce que je viens de faire, presque sans m'en rendre compte, sans calcul, sans rien. Et puis on se retrouve dans un local crasseux, entouré de surveillants qui nous épient derrière la vitre. Et Et voilà, et je pense que là, c'est une force absolument incroyable qui se déploie là aussi, et de part et d'autre. Je pense qu'effectivement, lui, il a été assez impressionné par mon audace, et moi, je suis impressionnée par l'homme, tout simplement, parce qu'il est, il emplit tout l'espace. Il emplit tout l'espace, et de ses regards très, très, très affûtés, qui m'impressionnent énormément par ses silences, par ses questions, et par sa capacité d'écoute aussi, et par le retrait dont il arrive à faire preuve, et moi je suis complètement en panique, j'essaie de le cacher, mais je suis là, je vis l'instant, et je mesure aussi, je mesure peut-être aujourd'hui avec le recul, mais je mesure que les choses pour moi vont changer, qu'il y a un avant, il y a un après, et que c'est peut-être ça ce que j'attendais finalement. Oui.
Moi, à ce moment-là, j'ai eu comment dirais-je, un petit mot, comme un petit lutin qui était sur mon épaule quand j'avais les livres entre les mains à ce passage du livre. Je me suis dit, c'est la rencontre de deux âmes sœurs.
Complètement. Vous avez complètement raison, c'est ça.
Oui. Ça m'a touché. Alors, on va laisser le soin aux lecteurs, aux lectrices et lecteurs de découvrir tout ça. Donc, il y a cette rencontre, et puis se passe du temps, et vous décidez, vous aussi, de le faire évader.
Oui, tout à fait, bien sûr, oui.
Parce vous prenez cette décision, une décision lourde de conséquences. Est-ce que vous en avez conscience à ce moment-là? Ou est-ce que vous êtes dans une forme d'apathie, de comme vous disiez tout à l'heure face à cette rencontre, il y a un avant et un après. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de dédoublement de votre personnalité à ce moment-là, Jamila qui regarde Jamila?
Si, forcément. Je pense que c'est cette décision. Elle est à la fois comment dirais-je? Elle est à la fois très très consciente. Dans le sens où moi j'avais lutté très 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 longtemps et finalement je m'étais forgé un caractère dont je n'avais pas conscience, que je ne soupçonnais pas, et à ce moment-là toutes les forces que j'avais accumulées elles se sont exprimées. Il y avait certaines choses pour moi qui étaient posées et que sur lesquelles je ne reviendrai pas, et ça je le savais. J'avais pris l'engagement envers lui de tenter de le faire évader. Donc pour moi il n'y avait pas de retour en arrière possible. C'était pas possible de changer d'avis. Et il y avait aussi une très grande empathie et par rapport à ses propres conditions de détention à l'époque. Ce que je découvrais finalement, ce qu'il me disait à moitié dans ses courriers. Le lieu où il était incarcéré, effectivement, totalement privé d'humanité, ça a résonné terriblement en moi. Je ne pouvais pas partir en faisant comme si je n'avais rien vu, rien senti. Michel était allé très très loin en lui, il avait flirté avec la mort plusieurs fois. Et voilà, et donc j'étais plus dans l'inconscience instinctive, j'étais vraiment... j'assistais vraiment au spectacle d'un homme à la dérive, vraiment, qui était parti très loin.
Et vous avez peur de tout, et vous avez peur de qu'il mette fin à ses jours. Bref, il y a une angoisse qui naît en vous.
Absolument.
Il y a une angoisse.
Oui, absolument. Ça va m'accompagner tout au long de ma détention.
Oui.
Mais oui, la décision de l'aider, je pense qu'elle trouve ses racines là, effectivement.
Oui. Oui. Moi, je me suis dit aussi, alors c'est peut-être de la psychologie à deux balles, passez-moi l'expression, mais par rapport à cette enfance où vous avez l'impression d'être enfermé, il y a l'insupportable, c'est-à-dire moi, j'ai réussi peut-être à me libérer, je ne supporterai plus jamais que quelqu'un d'autre subisse cela, et encore moins l'homme dont je suis tombée amoureuse. C'est aussi pour vous une forme de revanche aussi par rapport à ce que vous avez vécu, c'est-à-dire les portes, moi j'arrive à les ouvrir, il faut que j'arrive à les ouvrir pour quelqu'un d'autre.
Oui, possible. Oui, tout à fait.
Ah, voilà, c'était
oui,
c'est un peu...
En libérant Michel, c'était moi, évidemment, que je libérais aussi.
Oui.
Et paradoxalement, oui, moi, la recherche de mon émancipation, elle passait par un point de rupture. Alors, je ne savais pas à l'époque que ça allait finir en prison, mais je savais de toute façon que ce serait quelque chose de radical. Et
un point de non-retour, quelles que soient les circonstances après, de toute façon.
Tout à fait.
Alors... Bien sûr, les choses ne se passent pas comme vous le pensiez. Vous allez vous faire arrêter en pleine rue. Ce jour-là, vous sortez, vous allez vers le métro, vous êtes dans la rue. On a l'impression que vous avez conscience des choses, que vous attendez que ça vous tombe dessus. Et ça vous tombe dessus. La police vous arrête, vous menotte. Et le commissaire ou l'un des policiers vous dit, ça m'a d'ailleurs amusé, vous dit presque gentiment, mais Jamila, ça pouvait pas durer. Comme si on réprimandait un petit enfant. Ben, t'as fait une bêtise, mais en fait, tu pouvais pas continuer tes bêtises.
Oui.
C'était un peu ça.
Oui, tout à fait. Ça pouvait pas durer plus longtemps, oui, c'est vrai. Oui, parce que de toute façon, ça devait s'arrêter.
Oui, ça devait s'arrêter. Alors j'espère que ce qui ne va pas s'arrêter, c'est cette petite pause musicale. Et nous nous retrouverons tout de suite après avec Jamila Vaujour.
Des heures que tu l'attends, t'as mal aux os, t'as mal au dos, tu transpires, c'est pas parce qu'il fait chaud, et tu trembles, c'est pas parce que t'as froid, et tu l'attends, le salaud. Il prend son temps, il sait qu'il aura ton argent, tu ferais n'importe quoi pour avoir ton petit kepa. Oh, oh, tu voudrais la sentir déjà au creux de venir de loin. C'est ton soleil qui revient avec sa sale petite gueule d'enculé. T'es sûr que ce mec là il va t'arnaquer, mais déjà tu flippes comme un chien de peur qu'il te dise qu'il n'a rien. Et quand il tend sa merde avec mépris, tu vas même jusqu'à lui dire oh merci. Tu voudrais la sentir déjà au creux de ton bras. Oh, la femme de ceux qui n'en ont pas. Tu cours dans une samisette, et là pour toi c'est la fête. Et là avec l'eau de la cuvette, tu prépares ta petite dinette. Oh, et quand enfin tu plantes ton pied dans ton bras devenu noueux, et que le rouge se mêle au blanc, c'est la fin du tourment. Tu la sens maintenant au creux de ton bras. Oh, la femme de ceux qui n'en ont pas. Dans la rue, et déjà tu te souviens même plus qui t'étais avant, du temps où t'avais des couilles, où t'étais fier, du temps où t'avais même des rêves. Et tu piques du zen dans la rue. J'ai comme envie de te botter le cul, mais j'ai bien trop peur de te casser en deux, tellement que t'as l'air d'un petit vieux avec la ombre. Elle est vieille ta femme, elle est trop vieille pour toi.
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Jamila Vaujour pour son livre La force d'aimer aux éditions XO. Donc vous vous faites arrêter, vous allez vous retrouver en prison. Et là aussi, dans ce livre, c'est également, je dirais, le combat de la forme de répression, la façon dont on est emprisonné. Vous allez rencontrer les conditions d'enfermement. Vous allez malgré tout réussir à vous être condamné à 7 ans. Vous allez quand même réussir à pallier aux choses grâce à un personnage qui est très important dans votre vie et qui va l'être. C'est une des gardiennes, c'est Madame Souris.
Tout à fait. En tout cas, dans la première année de ma détention, oui. Je vais passer à Orléans.
Oui.
C'est une jeune surveillante, effectivement, qui va être, je pense, émue par l'histoire de Michel et moi, et, oui. Et qui fait preuve de beaucoup d'humanité pour adoucir mes conditions de détention, notamment en me faisant lire les courriers, parce que nous sommes interdits de communiquer.
Oui, vous ne pouvez pas, vous ne recevez pas les courriers ni l'un ni l'autre,
non.
De l'un et l'autre.
Non, pas du tout. Et voilà, donc oui, c'est un personnage important et c'est une grande et belle personne auquel je pense très souvent, malgré le temps qui est passé.
Vous avez gardé contact avec elle ?
Non, je n'ai pas gardé contact, non, parce que le contexte à l'époque...
Oui, c'est avant, après, c'est deux choses, voilà, c'est deux mondes différents,
tout à fait. Tout à fait, mais voilà, peut-être qu'elle aura... connaissance, je la salue dans les remerciements dans le livre d'ailleurs, parce que vraiment, c'est, ça a été une lumière dans ce parcours de cette première année qui est souvent la plus difficile parce qu'on découvre tout, qu'on prend tout de manière frontale dans la figure, en prison.
Oui.
Après, on s'habitue plus ou moins, même si on ne s'habitue jamais à la prison. Mais
bon,
après, c'est, voilà, on s'y fait, on a la carapace un petit peu plus dure. Mais au départ, c'était très, très difficile et elle a tout fait. Elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée.
Alors, il y a effectivement, quelque part, un rapprochement des circonstances, dirais-je, avec Michel. Vous arrivez quand même à communiquer donc grâce à cette surveillante. Et vous allez, moi j'ai eu l'impression que pendant tout un temps, vous allez lui maintenir la tête hors de l'eau. C'est-à-dire que vous prenez les choses en main, vous avez conscience des détentions, c'est très difficile pour vous, mais vous battez en vous disant, mais il n'y a pas de raison, on a le droit au bonheur, on a le droit d'être ensemble, et il faut que je le tienne, il faut que je le maintienne pour qu'un jour on puisse se retrouver, parce que ça n'est pas inéluctable, ça n'est pas une fin en soi, ça n'est pas possible, on a droit au bonheur. Et ça va être une lutte acharnée de votre part.
Tout à fait, ça a été une lutte acharnée jusqu'en 2003, jusqu'à la libération de Michel.
Oui.
Alors je pense pas que je vais tenir la tête hors de l'eau parce que Michel est quelqu'un de très très fort. Moi j'avais peur de ça parce que on n'avait pas effectivement de contact et je craignais qu'il meure de désespoir tout simplement.
Oui.
Mais par contre effectivement j'avais toujours cet espoir et cette lumière en moi en me disant forcément on ne peut pas tomber plus bas finalement, on est vraiment au bout de l'épreuve et on ne peut que remonter. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment portée, qui m'a accompagnée tout au long de ces 5 années de détention, parce que sur les 7 ans, je vais...
Oui, vous avez 5 ans. Oui.
Et je me disais, forcément, à un moment donné, quelqu'un va nous tendre la main, une porte va s'ouvrir, et voilà. Et j'avais vraiment cette foi en moi, ancrée en moi, et qu'il y avait quelque part, on avait un petit coin de ciel qui nous appartenait et on allait le trouver et on allait pouvoir s'y poser et construire quelque chose. Et j'ai bien fait d'y croire parce que c'est arrivé.
Parce que c'est arrivé.
Que, voilà.
Alors je me suis fait une réflexion, on parlait tout à l'heure de votre tentative de le faire évader parce que lui aussi c'était « personne ne décidera pour moi donc je m'évade, personne ne décide pour moi ». Mais et ensuite, bien des années plus tard, vous lui dites voilà, il faut faire de l'administration pénitentiaire un allié quelque part.
Absolument.
On renverse.
C'est pas facile.
Oui, c'est pas. Et puis il faut lui faire admettre surtout. Il faut lui faire admettre.
Oui, faut lui faire admettre à lui. Non, c'était pas facile du tout et ça a été un travail de plusieurs mois, de quelques années pour effectivement qu'il puisse accepter l'idée de baisser entre guillemets les armes et de voir effectivement l'administration pénitentiaire comme un partenaire et plus du tout comme un adversaire. Mm-hmm. Ça a été le début de ce chemin vers la liberté.
Mm-hmm. Liberté que vous avez retrouvée ensuite tous les deux. Alors, avec le recul, quand on regarde en arrière, forcément, il y a toujours un rétroviseur quelque part pour chacun de nous, mais votre histoire implique forcément encore plus ce genre de réflexion. Est-ce que vous referiez les mêmes choses, Jamila?
C'est très difficile, mais j'aime pas trop les jugements postérieurs.
Oui,
parce que
oui. Oui, c'est vrai.
C'est facile.
C'est vrai.
Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas discutée de ça à froid. Presque 30 ans plus tard, c'est très compliqué. L'état d'esprit d'alors était celui-là. La situation de Michel était celle-là. Mmh. On peut pas savoir ce qu'on fait. Pas plus qu'on ne peut savoir ce qu'on fera demain. Parce qu'on ne sait pas. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est impossible de le savoir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'état d'esprit d'aujourd'hui.
D'aujourd'hui.
Donc, je vais vous dire oui, je vais vous dire non, mais je ne sais pas.
Oui, c'est
on ne sait pas. Et ce que moi, j'ai appris, en tout cas, dans cette épreuve, c'est justement qu'on ne se connaît pas, qu'on ne sait pas de ce dont on est capable.
D'être capable.
On ne sait pas des forces dont on. Non, pas du tout. On ne sait rien, en fait. On ne sait pas, on ne se connaît pas. Si on n'est pas confronté à une épreuve, quelle qu'elle soit, parce qu'il n'est pas uniquement face à la prison, ça peut être un deuil, ça peut être la
Bien
maladie,
sûr.
Ça peut être
n'importe quoi. Oui.
Si vous êtes... Tout à fait. Tant que vous n'êtes pas vraiment confronté, que vous n'êtes pas amené à prendre des décisions qui engagent finalement votre vie, vous ne savez pas ce dont vous êtes capable. Ça, au moins, ça, j'aurais appris ça. Oui.
Et votre famille, hier et à ce moment-là et aujourd'hui, comment a-t-elle vécu tout cela? Comment s'est passé le rapport? Comment s'est passé cet enchevêtrement de ce parcours? Vous ont-ils soutenu? Ont-ils été derrière vous aujourd'hui? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Comment ça se passe?
Ils ont vécu tout ça de manière très violente parce que c'était violent. Parce que ça a été du jour au lendemain. J'étais étudiante, je me retrouve détenue, criminelle. Donc c'était violent, fatalement. Bien sûr, oui, ils m'ont soutenu, notamment mes frères et ma mère, bien sûr. Ensuite, ils m'ont accompagné. Et moi, si vous voulez, par rapport à eux, j'ai essayé de garder une certaine indépendance, parce que je voulais pas retomber justement dans la même situation, celle qui m'avait fait partir de chez moi. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup apaisé. Ils ont accepté Michel. Ils ont accepté. Ils voient bien que qui me rend heureuse et que finalement c'est ce qui compte.
Et vous avez trouvé votre petit coin de ciel bleu.
Tout à fait, absolument. Donc tout s'est apaisé. Le temps a apaisé les choses.
Alors aujourd'hui, vous avez une maison d'édition. Vous n'avez pas été magistrate, mais malgré tout, quelque part, cet esprit de liberté ne vous a jamais quitté. Vous l'avez enfin trouvé, ce bonheur, tous les deux?
Complètement. Oui. On l'a trouvé tout de suite, presque dès le premier jour de la sortie de Michel. Oui. Parce que moi, j'attendais que ça. Oui. Lui attendait de sortir et. C'est un bonheur renouvelé tous les jours depuis 17 ans, et pourvu que ça dure. Mais je pense qu'on connaît, c'est une expression qu'ils ont l'habitude d'employer, on connaît le goût de l'eau. Oui. On a eu très très soif pendant très longtemps, et je pense que quand on a eu très très soif, on n'oublie jamais le goût de l'eau après.
Tout à fait. Alors on vous a certainement posé la question des centaines de fois, mais tant pis, je vais le faire quand même. Après tout ce temps, pourquoi ce livre ? Le besoin de l'écrire, de l'exprimer, enfin.
Je crois que j'avais envie d'abord, parce que Michel s'était exprimé lui-même dans deux biographies qui sont parues. J'avais envie d'apporter peut-être une touche plus féminine. J'avais envie d'apporter, je pense que c'était le bon moment, peut-être parce que je viens d'avoir 50 ans, peut-être que, comme vous parliez de rétroviseur, j'avais envie de me retourner. Et puis effectivement, parce que les pensées, en fait, c'est pas pareil que l'écrit. Quand vous posez les choses, elles sont posées. J'ai un rapport tout particulier à l'écriture. Et j'avais envie peut-être de rajouter cette dimension féminine, finalement, d'une part, parce qu'on ne parle pas souvent des conditions de détention femmes, ce qui est dommage. Et puis aussi dire que, parce que j'ai entendu ici et là, vous avez été manipulée par vos jours, j'avais envie de donner ma vérité, peut-être dire que non. On peut faire les choses, qu'une femme n'est pas forcément quelqu'un qui est manipulé quand elle entreprend quelque chose. Ça peut être aussi par des convictions, une échelle de valeurs qui lui est propre. Et j'avais envie peut-être d'exprimer ça dans ce livre. Et puis de dire aussi qu'on n'a qu'une vie et qu'elle nous appartient, et que, et que tout, au bout du bout, aujourd'hui, on a retrouvé une vie pleine d'amour et de bonheur. Et que si je n'avais pas fait tout ça, ben, je serais peut-être passée à côté. Alors, ce n'est pas une apologie de la délinquance, j'entends bien.
Mais, oui, bien sûr.
Mais voilà.
C'est sans être une apologie de la délinquance, ça, c'est votre choix, c'est votre vie, ça a été votre choix du moment. Mais ce livre aussi, peut-être aussi pour expliquer le cheminement des choses, votre famille, comment votre esprit a circulé, comment vous avez évolué, le pourquoi du comment aussi, sans trouver de raison et de justification, simplement le cheminement de votre esprit, de votre réflexion.
C'était important, effectivement, de l'expliquer, Oui, parce que rien ne naît de rien, en fait. Tout. Forcément, on est construit de tout ce qu'on vit. Moi, je sais que je porte beaucoup de ce que j'ai vécu dans l'enfance, dans l'adolescence, dans tout ça. En fait, on s'en départit jamais. On est vraiment pétri de tout ça. Et on avance avec ça, on avance avec ce fardeau plus ou moins lourd. Et finalement, écrire, ça m'a permis ça. Ça m'a permis de peut-être détricoter et regarder un petit peu tout ce qui s'était passé. Et ça permet, l'écrit permet cette distance, justement, cette distanciation avec les événements, et permet peut-être de mieux les comprendre, parce qu'on a eu quand même la tête dans le guidon depuis un certain nombre d'années. Moi, je m'étais jamais vraiment retournée. Ça va, c'était passé, on était dans la vie, et puis voilà. Et voilà, aujourd'hui, il y a ce livre, et ça, c'est bien pour moi.
Très bien, vous avez bien fait. Vous en reparlez parfois de ces moments, de ces années un peu folles, un peu hors du temps, un peu hors sol, de temps en temps. Il y a un sourire, et peut y avoir des éclats de rire même parfois.
Non, très peu. On pratique ce que Michel appelle l'hygiène mentale. On ne parle pas du tout.
C'est très joli, ça.
Oui, pas plus qu'on... De la même manière qu'on n'a pas de télévision, on essaye vraiment de se préserver. On parle quasiment pas de prison. Moi, par exemple, il m'a jamais expliqué son évasion de la santé.
D'accord.
Quand on dit ça à des amis, ça leur semble complètement surréaliste. Non, parce que ça ne m'intéresse pas, quoi. Pas plus que. On est vraiment passé à autre chose. Je pense que si après, on n'est pas prisonnier de cette histoire-là, on n'est pas prisonnier de nos histoires respectives. On est vraiment en train de construire autre chose, et c'est maintenant qu'on construit. Pas plus tard. Je veux dire, le temps passe. Ça passe tellement vite.
C'est vrai. Alors, ce livre est très réussi dans l'écriture. C'est une belle écriture. C'est délié, c'est agréable, c'est facile. Vous avez d'autres projets d'écriture, Jamila?
J'aimerais bien. J'aimerais bien parce que du coup, ça m'a libérée d'écrire. C'est vrai, ça m'a fait du bien parce que j'ai tenté effectivement d'écrire de la fiction auparavant et finalement, je me heurtais toujours à mon histoire. Ouais. Mes héroïnes allaient toujours en prison ou elles avaient toujours des problèmes avec leur famille. Et je me disais, c'est pas possible, j'y arrive pas. Donc, j'avais plus ou moins abandonné parce que j'écris toujours. Mais...
Oui.
Et puis là, ça m'a un peu libérée. Donc, je laisse les choses se faire. Mais, oui. Mais peut-être, j'aimerais bien, oui.
Eh bien, on vous retrouvera avec plaisir. En tout cas, moi, je conseille à toutes et tous votre très beau livre, La force d'aimer, aux éditions XO. C'est un très beau témoignage, très bien écrit. Et ça a été un réel plaisir de vous recevoir. Je vous remercie infiniment. Et puis,
c'est moi qui vous remercie.
Reprenez la plume et on vous recevra toujours avec plaisir. Merci, Jamila.
C'est très gentil à vous. Merci.
Au revoir.
Au revoir.